La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Les élections qui devaient se tenir dimanche en République démocratique du Congo se repoussaient d'une semaine, officiellement pour des raisons purement logistiques.
Un incendie dans un dépôt de matériel électoral, des bulletins de vote brûlés, des isoloirs électroniques hors d'usage qu'il faut réimporter depuis la Corée du Sud. C'est vrai que les raisons techniques listées par la commission électorale et citées par le site Media Congo ne manquaient pas pour justifier ce report du vote. Mais tout de même, cette décision annoncée à 3 jours de la date prévue pose problème en RDC. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'édito du jour à lire dans la prospérité de Kinshasa. Où l'on comprend donc qu'avant même l'annonce du report hier, le fait de continuer à croire en la tenue de l'élection de dimanche relevait déjà de l'illusion farfelue. Et maintenant que c'est officiel, pour bon nombre de politiques congolais, cette semaine de plus a de fortes chances de se métamorphoser en un délai qui ne laisse pas entrevoir le moindre petit soupçon de son bout. Pour faire simple donc, la porte est ouverte pour un énième renvoi aux calendes congolaises de cette élection présidentielle qui aurait dû se tenir il y a déjà plus de 2 ans, mais qui a été refusé aux Congolais par leur président en place, Joseph Kabila, à chaque fois pour des raisons matérielles ou sécuritaires. Car Kabila fils ne pouvait plus se succéder à lui-même, nous rappelle le quotidien de l'ancienne puissance coloniale belge, Le Soir. Et finalement, ces derniers mois, Kabila avait accepté de désigner, en la personne de son ancien ministre Emmanuel Ramazani Shadary, un dauphin pour la campagne, dont la campagne a été poussée par tous les moyens de l'État. En face de lui, l'opposition 20 autres candidats qui crient au déni de démocratie aujourd'hui, à la mauvaise volonté évidente du clan Kabila et qui appellent leurs partisans à manifester pour protéger les institutions. Cette opposition s'indigne d'ailleurs dans les colonnes de Media Congo comme de la prospérité que la campagne s'achève officiellement ce vendredi alors que l'élection donc a été repoussée d'une semaine. La crainte de violence ne va faire que croître dans les prochaines heures, les prochains jours, prédit la BBC Afrique qui semble résignée quand elle écrit, cruel élément de contexte, que depuis son indépendance de l'empire colonial belge en 1960, le Congo n'a jamais connu d'alternance politique sans violence et selon les règles démocratiques. Dans la revue Foreign Policy, le constat est le même et la perspective pas beaucoup plus optimiste. Les 80 millions de citoyens congolais voulaient une élection, mais ce n'est pas vraiment cela qu'ils imaginaient. À titre donc la revue, même si le vote a bien lieu le 30 décembre, ces résultats seront immanquablement contestés, peut-on y lire, car le choix du vote électronique continue de susciter la défiance de très nombreux électeurs. Foreign Policy qui cite l'universitaire Tatiana Karayani, spécialiste de la RDC, pour qui les Congolais sont clairement désabusés face à cette élection, dont ils voient bien qu'elle est manipulée, mais en même temps, ils restent convaincus que c'est leur dernière chance de voir un changement démocratique dans leur pays. Fortes attentes, déjà déçues, le risque de la frustration est immense pour une République démocratique du Congo, hautement combustible alors qu'il est, conclu Foreign Policy.
Et depuis sa cellule à la prison de Tokyo, le PDG de Renault, Nissan Carlos Ghosn, nourrissait hier des espoirs de remise en liberté. Ces espoirs ont fait long feu, Camille, apparemment.
Et oui, c'est le principal titre développé aujourd'hui par la presse japonaise comme sur la chaîne publique NHK.
Prosecutors have slapped a fresh arrest warrant on Nissan Motors' former chairman. Carlos Ghosn was rearrested on allegations of breach of trust.
Voilà, c'est la nouvelle du jour. Un nouveau mandat d'arrêt lancé ce vendredi contre Carlos Ghosn, arrêté donc alors qu'il était déjà en prison depuis un mois. Mais cette fois, il y a un nouveau chef d'accusation, un troisième, nous explique le Yomiuri Shimbun. Celui qui reste officiellement patron de Renault est accusé cette fois d'avoir fait payer par Nissan, par les comptes de la société, des pertes qu'il avait subies pendant la crise financière de 2008 sur des investissements qu'il avait pourtant réalisés à titre personnel. Il y en aurait pour 14 milliards d'euros, selon les informations du Wall Street Journal. Carlos Ghosn est donc à peu près fixé sur une chose, il va bien passer Noël en cellule, puisque c'est ce qui semble préoccuper CNN et Bloomberg. Les deux chaînes américaines nous rappellent qu'hier, pourtant, les nuages avaient eu l'air de se déchirer au-dessus du grand patron déchu. Ses avocats voulaient croire en la possibilité d'une libération rapide, puisque, nous apprenait l'Asahi Shimbun, une cour du district tokyoïte avait désavoué le parquet et refusé d'étendre la durée de détention de Carlos Ghosn. 24 heures plus tard, le même parquet en remet donc une couche et le renvoie pour plusieurs tours à la case prison. Pour le Japan Times, plus la justice avance et plus ce dossier Ghosn révèle sa gravité, sa complexité aussi, bien au-delà des premières accusations de fraude fiscale.
Et enfin, les gilets jaunes français n'en finissent pas de faire des émules. Ils devraient déferler aujourd'hui sur le Portugal.
Et le pays s'attend ce 21 décembre à subir une importante journée de mobilisation sociale et politique placée donc sous le signe des coletes amarelos, désormais étendard universel de la fronde populaire, à en croire le journal régional Medio Tejo, qui annonce donc de grands rassemblements sur les routes et au cœur des villes portugaises. Le mouvement devrait même toucher l'île de Madère et paralyser son port de marchandises spécialisé dans l'export des agrumes, nous apprend le journal de Madère, qui confirme l'avènement des gilets jaunes à la mode portugaise. Même mode d'organisation et d'action qu'en France, même colère contre tout ce qui ne fonctionne pas dans le pays, avec des revendications concentrées tout de même sur les baisses de taxes sur les carburants et les hausses de salaires. Sur ce dernier point, justement, le gouvernement de gauche au pouvoir au Portugal a voulu tirer les leçons de la situation française et a devancé la journée de manifestation pour annoncer qu'il relève le salaire minimum à 700 euros. Cela n'a apparemment pas suffi à désamorcer les appels sur Facebook à bloquer le Portugal ce vendredi.
Merci Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.